Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Au Vietnam, les pays du Forum de coopération Asie-Pacifique déçus par la prestation de Donald Trump. Ils attendaient un soutien de poids pour faire face à l'expansionnisme chinois. Ils ont reçu un plaidoyer souverainiste, la correspondance de Dominique André au début de ce journal. Des centaines de milliers de manifestants attendus dans les rues de Barcelone cet après-midi en Catalogne. Ils demandent la libération de leurs dirigeants indépendantistes. Mobilisation citoyenne qui a toutefois du mal à se traduire politiquement. Marie-Pierre Vérot sera en direct dans un instant. Le mystère se lève sur le nuage radioactif détecté en France début octobre. Pollution au ruthénium sans conséquence pour la santé. La source se trouverait en Russie, va nous dire Jean-Marc Pérez de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Enfin, à 12h40, votre rendez-vous avec la bulle économique et Marie Viennot. Donald Trump achève ce week-end sa grande tournée en Asie. Avant de retrouver la Maison-Blanche, il fera encore une escale demain aux Philippines. Les faits et gestes du président américain ont été particulièrement scrutés au Vietnam, au sommet de l'APEC qui vient de se refermer. Cette organisation de coopération économique de la zone Asie-Pacifique rassemble 21 pays aussi différents que le Japon, le Vietnam ou encore le Canada. Donald Trump y a promu sa doctrine de l'Amérique d'abord, America First, ce qui a déçu nombre de pays qui cherchent à faire le poids face à l'expansionnisme chinois, Dominique André.
La prestation de Donald Trump durant ce sommet était très attendue par le Japon et les pays d'Asie du Sud-Est. Mais le président américain a délivré durant 2 jours un message isolationniste mettant en avant l'Amérique, alors que l'APEC est un forum de coopération économique. Inflexible, Donald Trump ne veut pas que les États-Unis signent un accord de libre-échange multilatéral dans la zone Asie-Pacifique. L'économiste vietnamien Bui Kien Tan, consultant pour le gouvernement du Vietnam, est déçu.
On attend beaucoup plus du président des États-Unis dans une audience de cette importance. Et je ne vois rien dans ce que le président Trump a dit qui fait avancer le travail, l'effort de la communauté vers un avenir plus prospère pour tous. Je suis déçu que les États-Unis n'ont pas joué un rôle important dans un événement important. Moi, j'attends beaucoup plus les États-Unis que ce que le président Trump a dit.
En marge du sommet, 11 pays de la région Asie-Pacifique ont décidé d'avancer. Ils se sont mis d'accord sur les fondations d'un nouveau TPP, traité transpacifique de libre-échange. C'est, disent les pays signataires, un signal fort envoyé à l'Amérique de Donald Trump.
La correspondance à Pékin de Dominique André. Donald Trump qui a également rencontré Vladimir Poutine en marge du sommet de l'APEC. Le président russe lui aurait assuré ne pas s'être mêlé de l'élection présidentielle américaine. Et puis les menaces nucléaires de la Corée du Nord étaient aussi en toile de fond de ce déplacement sans véritable désescalade. Ce matin, Pyongyang dénonce une tournée va-t-en-guerre en vue d'une confrontation pour priver la Corée du Nord de sa dissuasion nucléaire défensive. En Catalogne, au lendemain de la libération sous caution de la présidente du Parlement de Barcelone, les indépendantistes se mobilisent de nouveau aujourd'hui. 15 jours après la déclaration d'indépendance de la région et sa mise sous tutelle par Madrid, ils demandent la libération de 8 membres de leur ex-gouvernement régional et des 2 dirigeants de l'Omnium et de l'ANC, ces 2 associations qui sont à l'initiative aujourd'hui de la manifestation. Bonjour Marie-Pierre Vérot.
Bonjour Anne.
Vous êtes notre envoyée spéciale à Barcelone. Les indépendantistes attendent des centaines de milliers de personnes, unité dans la rue, mais toujours pas de traduction politique dans la perspective des élections régionales de décembre prochain.
En effet, la démonstration de force à laquelle s'apprêtent les associations indépendantistes à Barcelone tout à l'heure ne saurait masquer les divisions qui se font jour au sein de leurs représentants politiques. Le Front commun qu'avaient réussi à constituer les différents partis favorables à l'indépendance de la Catalogne en 2015, ensemble pour le oui, s'est fracturé. Carles Puigdemont, le président destitué en exil à Bruxelles, n'a pas réussi à les fédérer au sein d'une coalition et son parti, le PD4, se retrouve isolé. La gauche républicaine a décidé de concourir sous ses propres couleurs. Réunie en Conseil national ce samedi, elle finalise ses listes. Son leader emprisonné, l'ancien vice-président Oriol Junqueras, fait valoir que 3 listes permettront de rafler davantage de voix qu'une seule. Cela reste à voir. Quant au parti d'extrême gauche, la Coupe, il ne semble pas plus disposé à l'union. Alors, pour sauver la face, les différentes formations indépendantistes pourraient partager certains points d'un programme commun. En attendant, sur le front judiciaire, judiciaire. On note un changement de stratégie pour échapper à la prison. La présidente du Parlement catalan, cet indépendantiste de la première heure, a assuré au juge de la Cour suprême que la déclaration d'indépendance de la Catalogne était politique, sans valeur juridique, et elle a reconnu la prééminence de la loi constitutionnelle espagnole, une attitude qui affaiblit le discours de Puigdemont à Bruxelles. Alors que les sondages donnent invariablement une Catalogne coupée en deux entre partisans et adversaires de l'indépendance, en décembre prochain, le camp indépendantiste pourrait avoir plus de mal à mobiliser ses sympathisants qu'il y a 2 ans, quand il avait raflé la majorité des sièges au Parlement catalan.
Merci Marie-Pierre Véro pour vos explications depuis Madrid, depuis Barcelone, pardon, et merci à Arthur Gerbeau pour les moyens techniques. Une partie du voile se lève sur la pollution au ruthénium 106 observée fin septembre en Europe et notamment en France, à Nice, Ajaccio et la Seine-sur-Mer. Ce composant radioactif avait été détecté dans l'atmosphère en infime quantité et sans conséquence pour la santé. Mais comme ce composant n'existe pas à l'état naturel, l'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, a mené une enquête avec d'autres instituts européens. Une cartographie a été établie et la source se trouverait en Russie. Les précisions de Jean-Marc Pérez, il est le directeur général adjoint de l'IRSN en charge de la santé et de l'environnement.
On considère que dans la grande région sud-Oural, on a une probabilité relativement importante d'avoir eu cette source. Si cette source est une source terrestre, on pourrait avoir une source atmosphérique par un satellite. On a écarté le satellite jusqu'à ce jour parce qu'on n'a pas de connaissance de chute de satellite. Ça ne peut pas être une centrale nucléaire parce qu'on ne mesure que du ruthénium 106. Si ça avait été une centrale nucléaire, on aurait mesuré d'autres radionucléides artificiels. Et là, en l'occurrence, on ne mesure que du ruthénium 106. Ça peut être une installation de traitement du cycle du combustible, de traitement de combustible usé, ou une installation qui permet de fabriquer des sources de ruthénium qui sont, entre autres, par exemple, destinées au milieu médical. Mais en aucun cas, ça peut être une centrale nucléaire.
Des propos recueillis par Benjamin Mathieu. Les autorités russes ont dénié hier toute responsabilité dans cette pollution. Les 8 personnes arrêtées en France en début de semaine lors d'une opération antiterroriste franco-suisse ont été mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. 7 sont en détention provisoire, une autre a été placée sous contrôle judiciaire. Certains suspects se disent explicitement partisans du groupe État islamique, mais les échanges qu'ils nourrissaient entre eux via la messagerie Telegram n'ont pas permis de montrer l'existence d'un projet d'attentat abouti à ce stade, selon le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Emmanuel Macron commémore en ce moment même, le 11 novembre, qui a mis fin au combat de 14-18, le chef de l'État a visité ce matin le musée Georges Clémenceau à Paris, avec Jean-Noël Jeannenet qui préside à la fondation de cet établissement. Il a ensuite déposé, Emmanuel Macron, une gerbe au pied de la statue de l'ancien homme d'État radical socialiste sur les Champs-Élysées. Le chef de l'État qui a par ailleurs téléphoné à Michel Aoun, le président libanais, ce matin, une semaine après la démission surprise du Premier ministre du pays, Saad Hariri, démission autour de laquelle plane toujours beaucoup de mystères ce midi. Emmanuel Macron a souligné l'engagement de la France en faveur de l'unité et de la souveraineté du Liban. C'est un événement pour des centaines de millions de fans dans le monde, le retour de la guerre des étoiles. Disney vient d'annoncer une 4e trilogie et une série télé Star Wars pour sa future plateforme de diffusion de contenu, projet prévu pour la fin d'année 2019 avec pour objectif majeur de contrer Netflix. Les explications du journaliste spécialisé Fabrice Leclerc avec Éric Chavroux.
Star Wars est devenu aujourd'hui l'un des piliers essentiels de la stratégie Disney parce que c'est quelque chose qui génère énormément d'argent. Et c'est aussi une marque extraordinaire. Bob Iger disait hier, le PDG de Disney, Star Wars, c'est le plus grand mythe moderne. Donc avoir la marque Star Wars au sein de Disney, c'est pour eux absolument essentiel. Après, il faut relativiser, oui, parce que l'annonce d'une nouvelle trilogie tombe certes au bon moment, mais elle était attendue depuis longtemps. Et je crois que ce sont deux dossiers totalement différents.
C'est pas lié donc aux mauvais résultats qui ont été annoncés en même temps?
L'occasion fait le larron, là, c'est sûr qu'annoncer une nouvelle trilogie de Star Wars et une série télé est faite aussi pour rassurer les investisseurs, ça c'est sûr, mais l'essentiel aujourd'hui pour Disney, c'est évidemment Star Wars, mais c'est surtout le fait que Disney a décidé de lancer une plateforme concurrente de Netflix, et c'est ce qui agite aujourd'hui le monde hollywoodien, c'est que Disney aujourd'hui est décidé à se payer entre guillemets Netflix, et à donc utiliser tous les contenus qu'elle a, et notamment ses films,
pour ce projet justement de plateforme fédérée avec d'autres studios de cinéma. Et là, c'est le grand enjeu économique en ce moment à Hollywood. Et à Hollywood, on est là pour parler business, on n'est pas là pour parler artistique. Et c'est vrai que oui, c'est la grande annonce de ces derniers jours à Hollywood. Et l'annonce de Star Wars est la cerise sur le gâteau.
Et cet entretien de Fabrice Leclerc sur la manne que représente la guerre des étoiles pour Disney est à retrouver en intégralité en une sur notre site internet. Il est 12h40 sur France Culture. Retour maintenant sur les Paradise Papers et un siècle d'évasion fiscale.
La bulle économique, Marie Viennot.
Bonjour. Après cette semaine de révélations fiscales, vous vous dites peut-être que les scandales se suivent sans rien changer. C'est faux. Il y a des mieux. Mais c'est parce qu'on part de très 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 loin. Avant que des îles paradisiaques ne se spécialisent dans la domiciliation de comptes cachés, dans les années 20, il était une île bien plus proche et sans accès à la mer, la Suisse. La Suisse est devenue une planque pour les grandes fortunes françaises au début du XXe siècle parce qu'en 1902 a été créé en France un impôt sur les successions. Ainsi a commencé l'exode des grandes fortunes et de leurs capitaux, dans l'indifférence relative des pouvoirs politiques, jusqu'en 1932. Le 27 octobre 1932, sur demande du ministère des Finances, un commissaire perquisitionne un appartement loué à Paris par la Banque commerciale de Bâle, l'une des plus grandes banques suisses. Il saisit de très nombreux papiers, mais surtout un carnet qui met en regard des numéros de compte et le nom et adresse de leurs bénéficiaires. Ce sont les Paradise Papers avant l'heure. On n'y trouve pas Bernard Arnault, Total, Apple, Madonna et Philippe Stark, mais...
Il y a la famille Peugeot, il y a des sénateurs, il y a des députés, il y a d'innombrables anciens ministres, les généraux...
Sébastien Gay est historien du secret bancaire suisse. Vous trouverez une interview en longueur à la page de la bulle économique. À l'époque, on ne compte pas l'ampleur des fuites en kilos octets, mais 1000 personnes sont dans ce carnet, dont des directeurs de journaux. L'affaire mettra 10 jours à s'ébruiter, mais elle arrive finalement au Parlement. Et ce qu'on y entend alors, ce n'est pas honte à eux, mais je cite « Il est normal que chacun prenne des mesures pour protéger le bien diminué qui lui reste, car la fiscalité est trop lourde ». Le Parlement refusera même de lever l'immunité des parlementaires impliqués. Et quelques semaines plus tard, elle renversera le gouvernement Herriot pour que le scandale retombe vraiment dans l'oubli. Côté politique, les mentalités ont donc légèrement évolué. En 1932, Jérôme Cahuzac serait peut-être resté ministre.
Je vis dans un pays où tous les 31 décembre à 20h, le président de la République me souhaite une bonne année.
Ainsi commence Journal des affaires en cours, un documentaire produit en 1998 par Denis Robert et Philippe Harel. Juges impuissants, intermédiaires qui font leur beurre de leur intelligence mise au service du contournement des règles, société écran, tout y est, tout est dit. Et 20 ans plus tard, les noms ont changé, les pratiques se sont sophistiquées, mais quoi de neuf finalement ? La différence de taille, c'est que cette fois, les révélations sont mondiales. Or, c'est à cet échelon que le problème se pose. C'est déjà un bon point, une condition nécessaire, mais bien sûr pas suffisante pour avancer. La différence, c'est aussi que les journalistes qui ont travaillé sur les Paradise Papers sont plusieurs centaines et qu'il sera plus difficile de les harceler judiciairement. Contrairement à Denis Robert, sorti blanchi par la justice après 10 ans de procès intentés par Clearstream, dont il avait dénoncé les pratiques occultes. Mais en 2017, en Europe, on risque encore sa vie quand on enquête sur ces sujets. L'assassinat de la journaliste maltaise, il y a 3 semaines, l'a démontré. Cependant, les journalistes sont maintenant de plus en plus nombreux à s'intéresser aux pratiques déloyales des élites économiques et ceux qui trichent savent qu'ils ne sont plus totalement à l'abri des regards. De la justice ? Ça, on n'en est pas encore là. Il faut dire qu'avec tous ces milliards qui échappent aux impôts, la justice, elle a de moins en moins les moyens.
Hot pot, kip, hop, gymnasium, hypocrites, debt victim, pay them.
Merci Marie Viennot. La bulle économique est à retrouver avec vos bonus sur notre site internet franceculture.fr. Le temps de cet après-midi du samedi 11 novembre restera agité, ciel couvert avec de la pluie sur la majeure partie du pays. Seul le pourtour méditerranéen est épargné et les températures 10 à Strasbourg et Lille, 14 à Brest, 13 à Paris, 15 à Bordeaux, 16 à Marseille et jusqu'à 17 degrés à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue. À la technique, c'était Alexandre Dang.